Ce soir, nous recevons le professeur Jean-Hervé Lorenzi, qui est titulaire d'un doctorat de sciences économiques, d'une agrégation de droit et de sciences économiques, et il a reçu le prix AFSE, Association française des sciences économiques, en 1975. Il est actuellement professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine et conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild Bank. Il est président du Cercle des économistes et membre du Conseil d'analyse économique. Je rappelle que de 1994 à 1999, il a été également directeur général adjoint puis directeur général délégué de Grasse-Savoie. Ses publications, Le choc du progrès technique en 1995 et Encyclopédie de l'assurance en 1998. Professeur Jean-Hervé Lorenzi, c'est à vous.
Bonsoir. Peut-être pour la fin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons traiter donc en 50 minutes le sujet économie et innovation. Le sujet économie et innovation, pour des économistes, ça signifie dans la réalité progrès technique et croissance. Et derrière ces deux mots un peu barbares de progrès technique et croissance, dans la réalité, pour nous tous, cela signifie de bonnes nouvelles, la croissance, telle qu'elle nous la voyons réapparaître en Europe et chez nous, c'est-à-dire avec, au fond, une résorption progressive du chômage. Et puis, ça signifie des choses plus difficiles que sont ce qu'on appelle le chômage technologique, c'est-à-dire l'idée que la machine, progressivement, vient se substituer à l'homme et vient priver l'homme, de temps à autre, dans des périodes qui sont particulières, de son emploi. Alors, l'objet de cette conférence sera de réfléchir à la question suivante. Est-ce que le progrès technique, l'innovation, est un bien ou un mal? Pour mettre carte sur table, je vous indiquerai simplement que ma position personnelle est évidemment qu'il s'agit d'un bien. Cela étant dit, j'essaierai en 50 minutes de vous donner tous les éléments de réflexion que dont dispose aujourd'hui les économistes, bien évidemment dans une forme qui soit utilisable par toutes et par tous. Et puis, si les 50 minutes ne suffisent pas, bien évidemment, lors de la discussion, nous aurons loisir de réévoquer à peu près tous les thèmes. Quelques mots d'introduction et puis un plan qui, comme vous le verrez, se divise en quatre parties, mais ce sera pour la fin de l'introduction. La croissance économique est une notion complexe. Elle est à la fois le reflet de la capacité d'une nation à créer de la richesse et une mesure de comparaison des évolutions parallèles des pays du monde. Elle est un phénomène qui est à la fois ancien et nouveau. Elle est ancienne car elle a caractérisé l'évolution de la civilisation occidentale et n'est ainsi pas seulement le témoin de la formidable émergence de la société industrielle qui démarre à la fin du XVIIIe siècle, mais elle est déjà une notion connue pendant la période de l'essor du capitalisme commercial au XVIe siècle. Elle est également nouvelle, car la mesurer nécessitait un niveau scientifique avancé et l'existence d'une unité de mesure ne sera possible qu'à la fin du XVIIIe siècle. Le début de la croissance économique telle qu'on peut la mesurer coïncide avec l'apparition des révolutions industrielles et la première qui est à la fin du XVIIIe siècle. La période de croissance économique moderne, elle, se caractérise par une croissance très rapide de la population et de la production par habitant, ainsi que par un taux de formation de capital, c'est-à-dire l'investissement, bien supérieur à ce qui prévalait dans les époques précédentes. Elle se caractérise également par une utilisation, et c'est le cœur de notre sujet, beaucoup plus importante, de la technologie fondée sur la science. Kuznets, un économiste américain bien connu, estime pendant les 100 ans qui se sont écoulés depuis le milieu du 19e siècle, le taux de croissance du produit par habitant a été environ 10 fois supérieur à celui qui prévalait au cours de la longue période qui a séparé la fin du Moyen-Âge du milieu du 19e siècle, 2% contre 0,2%, et que le taux de la croissance de population a été 4 à 5 fois supérieur. Ainsi, le taux de croissance du produit total, de la richesse totale, a été de 40 à 50 fois plus rapide qu'au cours de la période précédente. En dehors de taux de croissance élevé, la croissance économique moderne par rapport aux normes passées se caractérise, toujours d'après Kuznets, par un taux de croissance élevé de la productivité dont on parlera, c'est-à-dire l'efficacité liée au progrès technique, par des changements structurels de l'économie, dont le plus notable est le glissement bien connu de l'agriculture vers l'industrie et plus tard vers les services, par des changements sociaux et idéologiques, notamment l'urbanisation et la sécularisation, et par un renforcement considérable des relations économiques internationales. Mais cette croissance, malheureusement, ne s'est manifestée que dans certaines régions du monde, et l'écart entre les produits économiques par habitant des pays économiquement développés et des pays peu développés s'est perpétué. Je crois pouvoir dire qu'elle est en train de s'accélérer avec cette nouvelle révolution technologique. Si on regarde les normes passées, le taux de croissance économique a été très élevé dans tous les pays du monde développé au cours des 100 dernières années. Les taux de croissance des différents pays ont offert d'importantes disparités sur des périodes plus courtes. De plus, à considérer les pays les plus importants, les taux de croissance économique enregistrés au cours des 100 dernières années ont été compris entre 2% pour la Grande-Bretagne et la France et près de 4% pour les États-Unis et le Japon. Depuis le début du 20e siècle, les économies occidentales ont connu des périodes de forte croissance alternée avec des périodes de ralentissement, et ceci malgré un impact technologique permanent. Les 30 glorieuses, celles de ma jeunesse, 1945-1973, correspondent incontestablement à l'âge d'or des pays industrialisés, période au cours de laquelle le taux de croissance varie dans les pays de l'Europe entre 2,5% et un peu plus de 6%. Le premier choc pétrolier intervenu en 1973 marquera la fin de cette période prospère. Les économies occidentales sombrent alors dans une longue période de récession où le taux de croissance annuel entre 1973 et 1994 s'inscrit dans une fourchette allant de 0,7% à 2,8%. Je vous prie simplement de noter que ceci était très largement supérieur à tout ce qu'on a connu pendant la période des 100 années évoquées tout à l'heure. Parmi les facteurs explicatifs de cette évolution défavorable, le progrès technique apparaît comme le principal responsable. Il est accusé, le progrès technique, d'épuisement, en même temps que la productivité des facteurs semble diminuer de façon irrémédiable. En somme, progrès technique et productivité deviennent des éléments clés dans l'explication du blocage durable de la croissance. Cette période de ralentissement va durer de 20 ans, touche à sa fin pour les États-Unis au début des années 90, pour nous plutôt vers les années 96-97. Si l'amélioration des taux de croissance, notamment dans nos pays en Europe, est inégale, tous les pays en Europe semblent retrouver le chemin de la croissance. Bien évidemment, les États-Unis sont connus puisque vous vous souvenez que lors du dernier trimestre, on a parlé d'un taux de croissance trimestriel de l'ordre de 7%. La récente reprise économique repositionne donc le progrès technique au cœur de la croissance économique. Ainsi, à l'aube du XXIe siècle, il existe chez les économistes un consensus selon lequel le progrès technologique est le moteur de la croissance économique, des gains de productivité et de l'élévation des niveaux de vie à long terme. Tous ces éléments conjugués nous conduisent donc à nous interroger sur la relation entre économie et innovation dans une perspective à la fois historique, théorique et empirique. C'est l'étude de ces différentes relations qui fera l'objet de ces 50 minutes, 45 minutes maintenant. Les relations entre le progrès technique et la croissance sont longtemps demeurées incomprises. C'est l'objet de cette réflexion qui fera la deuxième partie. Première partie, donc, les relations entre progrès technique et croissance. Deuxième partie, comment les économistes ont réussi à comprendre l'innovation. Les économistes se sont notamment attachés à dégager pendant des années les lois d'une production en régime d'équilibre stationnaire, puis ils se sont penchés réellement sur cette relation. Nous y reviendrons, et notamment dans le cadre de la pensée marxiste. Dans la troisième partie, nous présenterons les questions relatives à la relation complexe entre progrès technique et emploi, à la fois en termes de chômage et de modification des structures d'emploi. Enfin, dans la quatrième partie, si j'ai le temps, nous discuterons du rôle de l'État et notamment du rôle européen dans l'organisation des activités de recherche et d'innovation, en prenant comme exemple ce qui se passe en Europe, en le critiquant et en concluant par quelques propositions. Première partie donc, progrès technique, innovation et croissance économique. Cette partie comprendra sept affirmations que je scanderai de manière claire. Première affirmation, la croissance économique, comme je l'indiquais, s'est développée dans les pays européens depuis près de 2 siècles. L'émergence du capitalisme commercial et financier au XVIe siècle conduit à l'expansion des États occidentaux en créant le berceau du développement de la future société industrielle. C'est l'époque de la prise de conscience de la concurrence entre États commerciaux et l'émergence de systèmes monétaires via l'apparition de grandes banques aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. L'accumulation du capital peut alors commencer. C'est également la période de reconnaissance de l'importance des réductions de coûts pour faire face au développement de périodes qui vont être très souvent des périodes protectionnistes entre pays. C'est à partir de cette période, et donc à partir du début du XVIIIe siècle, que la Grande-Bretagne connaît un démarrage fulgurant, bien en avance sur les autres pays, grâce à la réunion d'un ensemble de caractéristiques favorables. Ces caractéristiques regroupent à la fois des dotations naturelles, un état scientifique très développé, abondance de capital et surtout, du moins pour les historiens de cette première révolution industrielle, un développement de l'agriculture qui va permettre notamment de mettre à disposition de l'industrie naissante une population qui va fournir la première classe ouvrière européenne. Rostov, que vous avez tous entendu parler, est le premier à avoir situé les phases de ce qu'on va appeler le take-off, le démarrage des différentes économies. Et ce qui est important dans l'analyse de Rostov, c'est que dans son analyse, qu'il considère comme étant le moment où il y a une rupture dans le taux de croissance significative, il va mettre en exergue le fait que les pays développés vont démarrer, donc rentrer dans la première révolution industrielle, dans des phases qui sont extrêmement séparées dans le temps. J'en cite juste quelques exemples. La Grande-Bretagne démarra, on prend toujours cette date mythique et celle de la machine à vapeur de Watt, 1783-1802. La France, 30 ans après, 1830-1860, toujours pour Rostov. Les États-Unis, 1843-1860. L'Allemagne, 1850-1873, etc., etc. On peut considérer donc que les travaux de Rostov permettent de mettre en avant le fait que cette croissance économique démarre bien il y a 2 siècles, mais qu'il met en exergue la différenciation des étapes de la croissance dans le temps et dans l'espace, séparant ainsi les pays. Ça marche ? De la même manière, certains travaux, je cite juste Madison, rappellent que dans les 160 ans qui vont de 1820 à 1992, le PIB des pays concernés a été multiplié par 40, le PIB par habitant a été multiplié par 8, alors, et ainsi que la population mondiale de ces pays globales est passé d'un milliard à près de 5 milliards et demi d'habitants. Donc, première constatation, quelque chose de tout à fait exceptionnel, une croissance, on n'est pas tout à fait au point de la technologie moderne, une croissance extrêmement forte, premier point. Deuxième point, la productivité. Eh bien, la productivité, elle va suivre une évolution à peu près comparable. Peut-être un mot pour définir ce qu'est la productivité. Au XVIIIe siècle, les physiocrates utilisaient déjà le terme de productivité pour décrire la faculté de produire. Au XXe siècle, les économistes ont défini la productivité comme le rapport entre la production et les facteurs nécessaires à celle-ci, notamment le travail, et on aura tendance chez les économistes à considérer que c'est bien la productivité, celle qui nous intéresse, c'est celle qui relie le volume de production par rapport au volume de l'emploi qui peut être repéré par un nombre d'heures de travail. On constate un phénomène très significatif, c'est que la productivité du travail va augmenter de manière très significative, et je fais toujours référence aux travaux de Madison. Lui sépare la période allant de 1870 à 1913, donc juste avant la Première Guerre mondiale, et puis la période qui va après la phase 1913 à 1950, en moyenne, à l'exception de l'Allemagne, qui connaît les difficultés historiques que l'on connaît, on s'aperçoit que la productivité suit l'évolution du progrès technique, suit l'évolution de la croissance, ou la précède, nous le verrons, et qu'elle a un accroissement très significatif. Un exemple pour notre pays, elle passe de 1,8% en moyenne de croissance annuelle à environ 2,5% annuel. Troisième chose, troisième phénomène, ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. Nous constatons donc que depuis deux siècles, croissance très forte, productivité qui suit de manière aussi très significative, et puis à partir de 1973, on assiste à un phénomène qui est résumé par la formule de Solow: il y a des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. On constate qu'à partir du choc pétrolier, au moment même où nous avons le sentiment que nous commençons à entrer dans une nouvelle phase d'une nouvelle phase technologique, nous constatons un ralentissement de la productivité, dont l'explication, une des explications, mais je prendrai la plus simple, porte sur le fait qu'il y a un long délai d'adaptation associé à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies exigent du temps et de l'effort, et donc, dans un premier temps, elles représentent plutôt un investissement qu'un gain de productivité évident. Quatrième phénomène, le progrès technique, mesuré par cette productivité, ce progrès technique explique assez largement le fait que les différents grands pays industrialisés n'ont pas les mêmes taux de croissance pendant les phases fortes. Ce qui revient à expliquer que le progrès technique n'est pas le même, n'a pas la même nature dans tous les pays, et donc, par voie de conséquence, qu'il n'aura pas le même impact sur les gains de croissance des différents pays. Là, il est important de citer un économiste célèbre, Solow, qui en 1957 explique que le taux de croissance du produit global s'explique par la somme des taux de croissance des facteurs, l'augmentation du capital, le nombre de machines, l'augmentation du nombre de personnes qui travaillent sur ces machines, donc du travail, et d'un résidu, ce qu'il appelle un résidu, résumant l'effet du progrès technique lui-même indépendant de l'importance des facteurs. Donc, on voit bien que la croissance, d'après Solow, et puis désormais c'est admis chez tous les économistes, c'est bien l'idée qu'il y a une croissance de l'emploi, une croissance du capital, et puis il y a une croissance du progrès technique. Et ce progrès technique, il est très lié à chacun des pays, selon son adaptation, sa capacité d'assimiler les technologies. Dans le cas de Solow, il affirme que pour les États-Unis, pour la première moitié du XXe siècle, le progrès technique explique 1 à 2% de la croissance, ce qui lui permet de dire que ceci concerne environ 50% du taux de croissance global. Résumons-nous, il y a une croissance forte, il y a une productivité forte, il y a des effets de croissance et de productivité séparés selon les pays, et cette productivité, ce progrès technique, eh bien, il est à l'origine des grandes différences entre les pays, notamment dans ce que nous avons pu constater de différences de croissance entre l'Europe et les États-Unis depuis une dizaine d'années, car ce progrès technique explique peut-être la moitié. Alors, ça dépend des travaux. Les économistes adorent se disputer sur tous les travaux, mais explique d'une manière très importante la croissance de la production. Alors, cinquième point, ceci nous amène évidemment à la troisième révolution industrielle aux États-Unis, puisque depuis 10 ans, nous constatons que cette situation, l'économie américaine est exceptionnelle. On commence, comme vous le savez, à parler de manque de main-d'œuvre. Le taux de chômage aux États-Unis est légèrement supérieur à 4%. Et on constate que, depuis peu, les gains de productivité suivent ce rythme de croissance. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais on constate, notamment dans le secteur manufacturier, en prenant, je cite mes sources pour qu'elles puissent être vérifiées, les travaux de Brinder et Pisani, on constate que dans le secteur manufacturier, après cette phase depuis le choc pétrolier d'une sorte de tassement de la productivité, on a un redémarrage très significatif et qui permet d'avoir cette croissance miraculeuse américaine non inflationniste, du moins jusqu'il y a quelques mois. Ceci nous amène à nous interroger sur le point suivant. L'économie américaine se situe-t-elle dans une nouvelle phase de croissance durable engendrée par les nouvelles technologies ? Les défenseurs de la thèse de la nouvelle technologie insistent sur le rôle des nouvelles technologies. Leur principale argumentation est fondée sur le fait que l'innovation permet de renouer avec les gains de productivité et de ce fait avec la croissance. La diffusion massive des nouvelles technologies permettrait la multiplication d'innovations secondaires et conduirait à une augmentation des gains de productivité. Plus précisément, la troisième révolution industrielle s'appuierait sur les technologies de l'information, et Brinder et Pisani, toujours les mêmes, notent que les entreprises américaines consacrent en moyenne 35% de leurs dépenses d'investissement aux nouvelles technologies informatiques et télécommunications. Les travaux de Boyer et Michel Didier, ici présents, évaluent à 25% ces différences, mais ça c'est le plaisir des économistes, mais on est sur des ordres de grandeur qui sont très significatives. Ainsi, au total, les industries technologiques de l'information représentent aujourd'hui un peu plus de 8% de la production américaine. Donc, nous poursuivons notre discussion, on s'aperçoit que c'est fondamental, on s'aperçoit que vraisemblablement ça permet d'expliquer y compris les redémarrages, et ceci m'amène évidemment en sixième point à vous donner de manière peut-être quelque peu scolaire quelques définitions, mais d'où vient ce progrès technique, et je vous donnerai simplement quelques citations en associant à ceci deux ou trois remarques plus personnel, mais les citations, les définitions m'apparaissent importantes. Elles sont les suivantes. Au démarrage du progrès technique, et de l'innovation, il y a la science. La science, on peut la définir comme ce qui fournit les connaissances dont l'application permet la création et l'innovation technique. Et puis, on peut développer à partir de ce moment-là, un peu en dessous, la technique, qui part de la science. La technique, c'est l'ensemble des procédés destinés à la production. Elle définit les facteurs qui entrent dans une combinaison productive, donc entre le capital et le travail. La technologie, elle se définit, vous voyez bien, technologie, elle se définit comme la science de l'art de faire. Ce terme désigne l'alliance du savoir-faire exercé dans un métier avec la connaissance scientifique dont il provient, qu'il exploite ou qu'il incite à découvrir. L'invention, elle est la découverte d'un principe qui enrichit la connaissance. Cette dernière peut rester confinée et ne pas avoir, très important, l'invention de déboucher dans le domaine économique. Enfin, l'innovation, ça va être la mise en œuvre économique de l'invention. Et puis, je termine par le progrès technique. C'est une notion mal délimitée, pardon pour les économistes, qui englobe les découvertes scientifiques et technologiques, l'accroissement de la compétence des travailleurs, une meilleure organisation de la production, mais également des facteurs non économiques, comme des dispositions légales favorables à un environnement politique stable. Le progrès technique peut alors se définir comme l'ensemble des phénomènes qui permettent d'augmenter la production sans accroître la quantité des facteurs utilisés. La boucle est bouclée. À partir de ce moment-là, ce progrès technique, pardon, j'allais oublier le plus important, la révolution industrielle, puisqu'on en a parlé depuis tout à l'heure, elle évoque l'idée d'un changement radical et d'une mutation profonde des structures économiques. C'est une rupture quantitative, une phase d'accélération de la croissance à partir des facteurs favorables qui ont permis la mise en œuvre d'inventions nouvelles. On a toujours considéré, chez nous autres les économistes, qu'il y avait trois grandes révolutions industrielles. La première, celle qu'évoque Rostov, démarre en réalité, la date n'a pas grande importance, mais en 1783. Pour prendre une date précise, c'est-à-dire au moment où il y a une réelle utilisation de la machine de Watt, et elle va se fonder sur trois principes essentiels, c'est-à-dire la mécanisation qui se renforce les uns les autres, on en dira un mot tout à l'heure, sur la mécanisation du secteur textile, sur l'émergence et l'utilisation économique de la machine à vapeur, et puis sur l'utilisation désormais de la houille qui permettra, et donc de l'utilisation d'un nouveau combustible qui se substitue au charbon de bois. Vous voyez bien d'ailleurs que les trois phénomènes vont se renforcer les uns les autres, puisque c'est bien pour pouvoir utiliser, exploiter les mines de charbon, il va bien falloir sortir l'eau, ce qu'on appelle exorer l'eau. Et pour l'exorer, ben, il faut une machine à vapeur. C'est la machine à vapeur qui elle-même va servir dans la réalité pour mécaniser l'ensemble de tout le processus de développement de la filière textile. C'est bon ? Bon. J'en arrive. Deuxième révolution industrielle, celle qui va démarrer en gros vers 1860 et qui va aller jusqu'à la fin du 19e siècle et qui va en réalité se fonder, elle, sur la naissance, l'utilisation de l'électricité, la naissance du moteur à explosion et tout ce qui va pouvoir en être utilisé, c'est-à-dire le véhicule terrestre, les transports. On a toujours expliqué que la révolution, la croissance américaine très forte était nette, était née du chemin de fer, et puis évidemment la chimie. Et puis la troisième révolution industrielle, c'est celle que nous sommes peut-être en train de vivre, sans pour autant que nous ayons là de date bien précise à indiquer. Je termine juste sur un dernier élément qui explique le rôle du progrès technique, toujours dans ce sixième point. Les économistes se sont fondés, notamment dans les dernières années, en expliquant, se sont fondés sur les travaux d'un économiste au départ russe, puis par la suite qui est parti, et qui s'appelle Kondratiev, et qui a inventé les grands cycles, les cycles de longue durée, de 25 ans de croissance et de 25 ans de décroissance, avec l'idée, ce qui était important dans le cycle de Kondratiev, c'était au fond la véritable raison de ce renversement de tendance. Ce renversement de tendance, Kondratiev, puis par la suite beaucoup plus Schumpeter, l'expliquera par le progrès technique et par le fait qu'à un moment déterminé émergent de nouveaux systèmes techniques, c'est-à-dire de nouvelles grappes d'innovation née d'invention, donc d'innovation, d'application économique d'invention, et qui, dans leur ensemble, permettent de faire basculer un dispositif dans une nouvelle forme de croissance. Alors, comme vous le savez, il y a quatre, plus exactement cinq demi-cycles. Le premier démarre en 1790. Et le dernier se termine en 1919 avec des hausses, des baisses. Ça colle très très bien avec la révolution industrielle et ça colle surtout aux merveilles de la science économique avec le fait que nous serions dans les années 90 en train de terminer notre phase très simple. Hein, 1975 étant le démarrage de la phase de décroissance, rajoutez-y vos 25 ans et nous sommes bénis par les dieux puisque nous allons rentrer dans une phase de croissance de Kondratiev liée au miracle des coïncidences, évidemment, à la troisième révolution technologique. Dernier aspect, je l'ai indiqué tout à l'heure, l'innovation, c'est bien évidemment le fait que c'est la mise en œuvre d'exploitation, et donc l'exploitation d'une invention, on donne vie à un investissement, et les économistes ont tendance, traditionnellement, à séparer les innovations en deux catégories, les innovations de procédés, et les innovations de produits. Les innovations de produits, c'est la mise au point, au fond, de nouvelles technologies concernant des produits plus performants et offerts aux consommateurs. Les innovations de procédés, c'est la mise au point d'adaptation de nouvelles méthodes de production ou de distribution nouvelle. Ces deux aspects ayant, comme vous pouvez l'imaginer, un impact, comme on le verra tout à l'heure, un impact extrêmement différent sur l'emploi, puisque les premières ont plutôt vocation à développer de nouveaux secteurs d'activité et donc à créer de l'emploi, les seconds ayant plutôt tendance à rationaliser la manière dont on produit les objets et donc vocation plutôt à substituer des machines aux hommes. Voilà donc, c'est 7 points, le 7e point étant qu'est-ce l'innovation. J'en passe donc à mon deuxième aspect, deuxième grande partie de cet exposé. Comment est-ce que les économistes ont, au fond, réfléchi les problèmes d'innovation et je l'ai baptisé dans ma version écrite, l'innovation dans la pensée économique. Je le balayerai dans les temps impartis, mais je crois que c'est très important parce que, au fond, lorsqu'on relit les différents économistes, on s'aperçoit ce que la vie m'a amené à faire il y a quelques années de manière assez soigneuse. On s'aperçoit que Adam Smith, Ricardo, Marx, Schumpeter, et puis aujourd'hui, les nouveaux courants de pensée dont je dirai un mot, permettent d'extrêmement bien comprendre, en tout cas de bien analyser, les mouvements de l'économie contemporaine. Alors, Adam Smith. Adam Smith, vous savez que son ouvrage, son œuvre, c'est La richesse des nations, et il souligne de manière extrêmement forte que les machines associées à la division du travail et au libre-échange sont les facteurs d'accroissement régulier de la productivité, de l'emploi, de la baisse des prix, donc l'amélioration de la main-d'œuvre. Et au fond, pour lui, en le citant, l'innovation technologique est en réalité induite par le savoir-faire des ouvriers et par le travail des savants ou des théoriciens, et l'augmentation de la productivité du travail, donc la productivité, comme on l'a évoqué tout à l'heure, provient de trois facteurs. L'amélioration de l'habileté des hommes lorsqu'ils se concentrent sur une seule tâche, et c'est la fameuse division du travail. L'économie de temps liée au fait de ne pas avoir à passer d'une tâche à l'autre, et c'est de nouveau la division du travail. Et l'incitation consécutive à inventer des machines pour abréger le travail. Il montre, ceci c'est dans son troisième chapitre, La richesse des nations, comment ces trois facteurs peuvent multiplier par 240 la quantité d'épingles produites par personne. Et il faut bien que vous compreniez, parce que je n'aurai pas le temps de le dire, que dans la logique de Smith, l'idée est bien que la productivité, c'est l'accumulation du capital, c'est l'organisation du travail avec la fameuse manufacture d'épingles. Et c'est donc la capacité de produire de manière plus efficace. En produisant de manière plus efficace, on augmente le profit. Le profit pour les classiques, et il est le plus grand des classiques, c'est la capacité d'épargner. L'épargne, c'est l'investissement. Et l'investissement, c'est de nouveau la croissance. Et donc, c'est la création d'emplois. Donc, il y a un espèce de discours qui est très fort, qui d'ailleurs imprégnera et imprègne toujours la façon de voir de nombreux économistes qui, d'ailleurs, ont pour eux bien des chiffres. Ricardo. Alors, Ricardo, c'est, à mon sens, le plus grand des économistes de l'histoire de la pensée. Et en réalité, Ricardo a un apport par rapport à Smith, deux apports, pardon. Le premier apport, c'est que, au fond, il se penche dans le rôle que le produit technique peut avoir dans l'agriculture, car c'est au fond son interrogation. Les améliorations en agriculture du produit technique sont de deux espèces. Elles augmentent la force positive de la terre et font obtenir des produits avec moins de travail. Mais deuxième impact, et c'est là la clé du discours pessimiste de Ricardo, deuxième version, et elle est pessimiste. Ricardo, dans un chapitre qu'il rajoutera dans la troisième version des principes, qui est le chapitre de mémoire 12 et qui s'appelle « Des machines », il rajoute que, bien évidemment, les innovations sont mises en place dans un objectif d'accroissement du profit, et alors que ces machines entraînent une augmentation du rapport entre le capital fixe, c'est-à-dire les machines, et le capital circulant, c'est-à-dire les salaires, et ceci, cette substitution des forces mécaniques, peut entraîner de manière cumulative, finalement, un sous-emploi chronique. Et le cœur du dispositif de la réflexion de Ricardo elle consiste à dire que la logique profonde du fonctionnement des sociétés, c'est la répartition de la, richesse. Cette répartition de la richesse va se faire entre les rentiers, entre les capitalistes et entre les salariés. Et au fond, dans ce dispositif, il y a une logique qui est une logique qui l'amène à avoir un grand pessimisme, qui est la logique de faire substituer le travail au travail du capital, et que cette mécanique est une mécanique qui entraînera obligatoirement, pour des raisons de répartition, la substitution et la création finalement d'un chômage, dont il ne voit pas d'ailleurs comment on peut en sortir. Troisième impact, c'est pour moi le plus important sur ce sujet-là, c'est celui de Karl Marx, ça me donne 5 minutes de plus, c'est celui ça donne quand même un peu de mouvement, donc je considère que ça fait 5 minutes, hein. Le prochain coup c'est 10 minutes. C'est l'approche, parce qu'on a quand même encore bien des choses à dire. C'est l'approche de Karl Marx, et dans la réalité, vous savez que, au fond, l'idée même de ce qu'est les principaux concepts marxistes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie, pour Marx, est centrale dans l'évolution des sociétés. Pour illustrer cette idée, Marx rappelle que la machine, au moment de la révolution industrielle, remplace le travail, le travailleur et ses outils. Une vision qui est très proche de celle de Ricardo. C'est la raison pour laquelle l'homme est également remplacé comme force motrice par un moteur. Donc pour Marx, l'émergence de la grande industrie est le résultat du développement du machinisme qui s'appuie sur une application technologique des sciences. Par conséquent, l'auteur considère que la grande industrie est devenue le moteur du progrès de la technologie et de l'application de la science à la production. Mais ceci est en réalité une vision qui est bien connue. Ce qui est beaucoup plus important dans la vision marxiste, c'est dans le livre 3 du Capital. Marx va insister sur le fait qu'il y a dans cette apparition de la machine un aspect positif, car l'effet des innovations va être positif dans la mesure où cela permet de réduire le coût des éléments constants du capital. Vous vous souvenez, le C plus V plus PL. Capital constant plus capital variable plus plus-value. Mais surtout, lorsque l'on regarde bien, ce qui détermine le taux de profit, et je ne peux pas vous écrire la formule du tableau, mais je vous demande de me faire confiance, c'est tout simplement qu'il y a un rapport qui est la composition technique du capital, c'est-à-dire le rapport entre le C, capital constant, et le V, capital variable, c'est-à-dire les machines et puis les salaires. Et comme ce rapport va avoir tendance à croître, il va y avoir une baisse tendancielle du taux de profit. Et alors, c'est une des plus grandes énigmes puisque, au fond, ça a été quand même la Bible de milliards d'hommes pendant des décennies. Il y a une immense interrogation sur ce qu'est finalement le fait que, au fond, il y a une sorte d'arithmétique très simple. Lorsque l'on regarde la définition du taux de profit, on s'aperçoit que cette définition du taux de profit entraîne mécaniquement que l'augmentation, la substitution de machines au travail humain fait que le taux de profit doit baisser. Tout simplement parce que la plus-value ne peut plus être extraite que sur une masse de travail qui va aller proportionnellement en diminuant. La seule erreur, c'est tout simplement que tous ces éléments, le capital constant, le capital variable, vont avoir leur propre valeur modifiée par l'évolution très forte de la productivité, et qu'aucun des rapports que l'on a dans cette petite formule mathématique qui définit le taux de profit, aucune de ces valeurs ne peut être définie, son évolution ne peut être définie de manière évidente. Quatrième auteur, Schumpeter. Alors Schumpeter, c'est vraiment les fondements de l'économie d'innovation, puis c'est pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est le père. avec évidemment l'ouvrage moteur qui s'appelle « Capitalisme, socialisme and democracy » et qui, au fond, va partir de quelques concepts forts. Mais d'abord, le premier, c'est celui d'innovation, dont il va dire qu'elle peut prendre 5 formes différentes. C'est un bien nouveau. Souvenez-vous donc qu'on peut avoir une innovation de produit, le bien nouveau. La méthode de production nouvelle, ce qu'on évoquait tout à l'heure en disant c'est une innovation de procédé. Le débouché nouveau, c'est au fond l'élargissement même des possibilités de marché. La nouvelle source de matières premières ou de produits semi-ouvrés et la réalisation d'une nouvelle organisation telle que la création d'un monopole. Donc l'innovation, c'est une innovation qui est très large et qui sera dans la conception schumpeterienne massive. Les innovations technologiques qui introduisent une irréversibilité dans le développement affirment leur présence au cœur des cycles qui scandent l'activité économique. En un mot, Schumpeter va reprendre les travaux de Kondratiev et va considérer qu'effectivement, il y a bien des grands cycles qui sont scandés par l'émergence de nouveaux systèmes techniques. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, qui va mettre en œuvre ces innovations? Bien, c'est l'entrepreneur, c'est le personnage mythique qui se substitue à la classe capitaliste ou à la classe ouvrière et qui devient l'élément moteur. L'entrepreneur, c'est l'innovateur, celui qui met en application de nouvelles combinaisons de produits ou de facteurs. La spirale du développement est enclenchée grâce au comportement de quelques entrepreneurs qui, par leurs innovations, remettent en cause l'ordre établi en prenant le risque de l'échec, puisqu'ils agissent dans un monde qui est un monde incertain. Dernier aspect, mais il est déjà contenu dans la philosophie de Kondratiev, l'activité économique ne progresse plus régulièrement, mais par alternance de phases d'expansion et de régression entrecoupées par des périodes plus brèves de crise et de reprise. Schumpeter donc conclut en disant que cette inégale répartition dans le temps est due au fait que les innovations ne sont pas indépendantes entre elles et que leurs liens sont souvent analysés en termes de système. Et vous retrouvez ce que j'indiquais tout à l'heure à propos de la première révolution industrielle, c'est bien un système d'innovation, la machine à vapeur qui exore, la mise en application de la houille, la mécanisation et toutes les découvertes qui vont mécaniser tout le cycle de production du textile, etc., etc. De la même manière, on pourrait dire, lorsque tous les jours à la télévision, vous entendez parler de la convergence des systèmes, Internet, les télécoms, etc., c'est bien la convergence ou la structuration d'innovations technologiques qui font qu'à un moment déterminé, eh bien, ces innovations technologiques sont mises réellement en application. N'oubliez jamais que la machine de Watt, son principe, le principe de la machine à vapeur préexistait depuis fort longtemps et qu'en réalité, on aurait pu développer la machine à vapeur depuis le début du XVIIIe siècle. Je vais vite, puisqu'il me reste 20 minutes. L'innovation comme résultante des mécanismes de marché, eh bien, au fond, à partir de ces 4 grands auteurs, il y a eu énormément de travaux sur finalement le marché de l'innovation. Et l'idée que tout ceci peut être représenté par des mécanismes marchands et au fond l'interrogation de ce qu'on appelle pour les économistes et économistes néoclassiques, c'est l'idée simple qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui pousse les agents économiques à innover, donc à investir des moyens financiers dans le but de commercialiser leurs inventions. Une démarche simple, j'en ai cité un des auteurs parmi les nombreux auteurs, les centaines d'auteurs qui ont écrit sur le sujet, un auteur qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Invention and Economic Growth, comme mon anglais n'est pas parfait, je le traduirai par Invention et croissance économique, c'est presque le titre de la conférence. Schmuckler indique simplement que l'invention fait partie intégrante du champ de l'économie, tout simplement parce que la recherche-développement dans une entreprise est influencée par la structure du marché dans laquelle elle se situe. Et au fond, on va s'interroger tout simplement sur le fait de l'hypothèse que l'on fait sur les marchés futurs, non pas tellement le coût de l'innovation ou de la coût de la R&D, mais est-ce qu'on va avoir un marché important à terme et est-ce qu'on va avoir une part de ce marché importante. Voilà le fait. Alors tout ceci se combine par le fait que progressivement les économistes ont considéré qu'on endogénéisait le progrès technique, c'est-à-dire qu'au fond, au-delà de considérer que c'était une sorte de donnée extérieure, eh bien, on allait considérer qu'on allait pouvoir agir tout simplement en mettant un peu plus, par exemple, d'argent dans la recherche et développement, mais ceci, on le retrouvera tout à l'heure dans la critique de la politique européenne de la R&D. Enfin, et dernier courant de pensée tel qu'il se développe depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle le courant évolutionniste. Alors, il a un intérêt, c'est il est né très précisément en 1982, enfin par un ouvrage majeur, et il est né de l'idée qu'on pouvait adapter les concepts de l'évolutionnisme darwinien aux phénomènes économiques. Alors qu'est-ce que ça donne ? Alors, ça a donné des modèles divers et variés. Je ne vous reprends pas les hypothèses même de l'évolutionnisme, mais ça revient tout simplement, et ça c'est important, dans notre réflexion, à dire que pour une entité économique, au fond, qu'elle soit un pays, le nôtre par exemple, ou que ce soit une entreprise, le poids du passé, c'est-à-dire l'histoire technologique d'un pays ou l'histoire technologique d'une entreprise, compte beaucoup, détermine assez largement, vous retrouvez les éléments de l'évolutionnisme, assez largement les degrés de liberté qu'on a pour pouvoir agir, et évidemment l'état de l'environnement, mais ça on retrouve là aussi les concepts évolutionnistes. Mais c'est le premier point qu'importe, history matters, l'histoire compte. Et finalement ça explique les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas tellement capables en Europe, et encore plus spécifiquement chez nous, de développer des technologies informatiques avec autant de talent que finalement le font les Américains, que nous avons beaucoup de difficultés et que, en dépit des sommes qui sont allouées et qui ont été parfois importantes, l'Allemagne est un immense pays industriel, n'a jamais réussi à percer dans les semi-conducteurs. Pourquoi ? Eh bien, c'est bien parce que, vraisemblablement, il y a une sorte de déterminisme du passé technologique qu'il faut pouvoir analyser et qui est important. Alors, troisième point, troisième grande partie, au fond, le progrès technologique et l'emploi. J'en dirai juste quelques mots, car je voudrais simplement pouvoir conclure. Au fond, vous avez vu qu'il y a une hypothèse naturellement optimiste. C'est celle qui consiste à dire le progrès technique, ça crée du profit, le profit, ça crée de l'épargne, l'épargne, ça crée de l'investissement, et l'investissement, ça crée de la croissance, et donc ça crée finalement de la croissance et donc de l'emploi. Il y a une version qui est plus pessimiste et qui est celle de la version soit ricardienne, soit marxiste. Alors, Marx est vraiment une version très, très négative puisque on s'attend pire. Chez Ricardo, c'est l'idée au fond que vous pouvez très bien épargner et investir, mais vous pouvez de nouveau investir dans des machines. Et au fond, rien n'interdit de penser qu'il peut y avoir une sorte de vision cumulative où on investit de plus en plus, mais non pas dans les individus, mais tout simplement dans les machines de nouveau. Alors, évidemment, c'est une hypothèse que les faits démentent. Et je prendrai juste l'exemple bien connu que la destruction d'emplois depuis la première révolution industrielle avait pris la même proportion, avait suivi les gains de productivité, alors aujourd'hui, il ne resterait que 5 à 10% des emplois qui existaient au 19e siècle. Et donc, on voit bien que l'hypothèse négative doit être finalement analysée avec beaucoup de circonspection. De la même manière, c'est aussi, me semble-t-il, parfois une vision un peu simpliste. On s'aperçoit que les pays qui ont de la croissance la plus forte, et notamment des croissances d'emplois les plus fortes, ont la croissance de la productivité la plus forte. Mais qui est la poule, qui est l'œuf et quelle est la relation, ça n'a rien d'évident. Donc au fond, on pourrait très bien dire, il y a une croissance très forte, point. Et donc, il y a une croissance forte de l'emploi et une croissance forte de la productivité, ou on peut dire il y a une croissance forte de la productivité, donc une croissance de l'emploi, et une croissance forte de l'emploi, c'est un bon. Donc, la corrélation me paraît toujours un peu... Il n'y a pas de lien de causalité qui me paraît évident. En revanche, la thèse de Sauvy, qui est bien connue, d'Alfred Sauvy, qui s'appelle la thèse du déversement, consiste à dire si dans un secteur d'activité, je suis dans un dégain de productivité fort, je vais avoir tendance à supprimer des emplois, parce que je ne mettrai pas en œuvre une innovation si elle ne me permet pas de baisser le coût de production du bien concerné. Bien évidemment, si je baisse le coût de ce bien produit, ceux qui avaient tendance à l'acheter voient dans la réalité leur pouvoir d'achat augmenter, puisqu'il y a une partie des biens qu'ils achètent qui se trouve être moins cher. Donc ils se trouvent avec un gain de productivité. Alors il y a deux solutions, soit ils en achètent plus, et vous allez avoir à ce moment-là une mécanique qui fait que peut-être nous aurons un rééquilibrage, parce que l'augmentation de production de ce produit fera qu'on utilisera plus de monde, ou version plus vraisemblable, les gens vont aller acheter d'autres biens, ces autres biens, il faut bien qu'il y ait des gens qui les produisent, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors ça, c'est une thèse qui est une thèse qui a aussi son intérêt, mais qui est un peu, à mon avis, un peu simpliste. Ma conviction profonde, c'est que dans la réalité, il faut bien distinguer les innovations. Il y a les innovations de processus, et il est clair que pendant un premier temps, lorsqu'il y a accélération du progrès technique, les machines qui viennent se substituer aux hommes viennent bien là pour remplacer des hommes. Et il y a quand même un problème, à l'évidence, même pas exclusivement d'adaptation, mais quantitatif. Et puis, deuxième temps, par rapport à cela, se développe des nouvelles innovations, mais qui sont des innovations de produits, c'est-à-dire des nouveaux produits, des biens et services, ce qu'on constate de manière très forte aujourd'hui, et c'est cela qui va progressivement créer de manière forte de l'emploi. Malheureusement, et je citerai simplement des tas de travaux, je n'ai pas le temps de parler d'organisation du travail, mais je rappelle simplement qu'un chiffre que citait le rapport, qui est ici dans le rapport de Boyer et Michel Didier, et qui constatait qu'entre 83 et 95, le secteur des hautes technologies a créé des emplois dans la zone de l'OCDE à hauteur de 3,3%, alors que l'industrie manufacturière a enregistré un déclin de 19,4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un transfert. Quoi qu'on dise, les gens, ce n'est pas si facile à transférer. Et il y a surtout un transfert de qualification. Et ceci me permet d'indiquer que, bien évidemment, le problème auquel seront confrontés les pouvoirs publics, et notamment les nôtres, dans les mois qui viennent, c'est le fait que, on était plusieurs à l'avoir prédit, il y a une accélération très forte. L'économie est toujours surprenante parce que c'est comme du surf. Vous êtes pris par la vague. Il y a un phénomène d'accélération de création d'emplois très forte. Mais ces emplois vont permettre notamment aux jeunes de ne plus avoir les problèmes qu'ils ont pu connaître il y a une dizaine d'années. En revanche, et on verra le taux de chômage décliner assez rapidement, mais en revanche, demeureront quelques 1,5 million de personnes souvent non qualifiées sur le bord de la route. Et là se posera un problème qui est un problème clé de la politique industrielle de notre pays, qui est de savoir si on continue ou si on accélère le fait d'essayer de baisser le coût du travail non qualifié, et notamment si on essaye de prendre en charge l'ensemble, prendre en compte et prendre en charge publiquement les charges sociales de manière à faire baisser le coût du travail non qualifié et le rendre plus attractif. C'est vraiment le dossier le plus important que nous ayons à connaître, quelles que soient les majorités. Je termine ce bref exposé en disant, quatrième point, que l'Europe s'est beaucoup agitée depuis quelques décennies. Pourquoi? Parce qu'elle a constaté qu'elle était vraiment le réceptacle naturel de politiques actives en matière d'évolution des systèmes productifs en Europe, et peut-être même de spécialisation industrielle. Et donc, elle a eu toute une série de politiques fortes. Notamment, elle a essayé de, ceci dans les années 80-90, sous la houlette d'un dynamique commissaire qui s'appelait d'Avignon, qui d'ailleurs n'a pas été pendant cette période, essayer de créer des programmes de technologie qui permettaient de rattraper le retard que nous avions technologiquement par rapport aux États-Unis. Ceci amène à trois conclusions, qui seront d'ailleurs ma conclusion finale, trois conclusions qui sont les suivantes. Premier aspect, nous n'avons pas rattrapé le retard américain en technologie, soit de l'information, soit des biotechnologies, loin de là, puisque je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais si on prend dans le domaine d'Internet le hardware, les routeurs, si on prend l'ensemble de la filière Internet, on s'aperçoit que entre 80, c'est pour le premier point, hein, les routeurs, et 100% pour tout le reste, des développements sont effectués par des entreprises américaines. Ce qui pose quand même un léger problème. Première constatation. Deuxième constatation, on pourrait faire la même en matière de biotechnologie et dans un rapport que nous finirons un jour par sortir, on constate que nous avions une certaine avance dans le décryptage du génome et que les Américains, et notamment le président Clinton, avec beaucoup d'à-propos, a développé des programmes extraordinairement organisés, talentueux, je n'ai pas le temps de développer, mais très, très organisés, et notamment un programme qui s'appelle Human Genome Program, qui, dès l'année 95, mobilisait 300 millions de dollars en pure recherche. Troisième aspect, et de manière plus importante, et je terminerai par une note d'optimisme, parce que sinon on se quitterait un peu larmoyant. Troisième point, il faut que vous sachiez que lorsque l'on prend l'ensemble des dépenses de recherche et développement, publiques et privées, américaines d'un côté, européennes de l'autre, Europe des 15, le tout, privé et public, on s'aperçoit que la différence annuelle de dépenses est de 60, je vous me permets de vous demander de retenir ce chiffre, parce qu'il est incroyable, 63 milliards de dollars de différence. Et ne croyez pas un instant que ceci est lié au fait que les entreprises américaines, 63 milliards de dollars de différence en 99 entre les États-Unis, public, privé, entreprise, tout ce que vous pouvez, les États, tout ce qu'on peut imaginer, et nous, la Commission, la Communauté européenne, les programmes tout divers et variés, les programmes nationaux, les programmes d'entreprise. Et tout ceci amène à 63 milliards de dollars. Ça signifie qu'il y a 63 milliards de dollars qui sont destinés à vraiment à faire de la recherche pour développer des technologies et nous avons un grand retard par rapport à ça. Et ne croyez pas, c'est là où je voulais en venir, que ceci est lié à un dynamisme, c'est lié entre autres, à un dynamisme particulier des entreprises américaines, elles le sont. Mais les programmes que je cite, ces 63 milliards de dollars, cette différence est très largement liée à un investissement massif public américain. Et donc, je terminerai en disant que je crois que nous sommes rentrés dans une phase nouvelle. Nous avons été très nombreux à en parler depuis 15 années, donc il n'y a pas de propriété dans ce domaine-là intellectuel. Je crois simplement que l'accélération que j'évoquais tout à l'heure est en train de se faire. Elle est très, très positive, donc il faut accueillir ce mouvement de manière extrêmement positive. Nous avons vécu, tous les économistes, avec des chiffres de création d'emplois, jusqu'à il y a 3 ans, de 200 000 créations d'emplois qui permettaient à peine d'éponger les arrivées des jeunes sur le marché du travail. Nous en sommes à 400 000, et si on y mettait un peu d'une autre, on arriverait peut-être à augmenter ce chiffre. Donc, il faut vivre ce mouvement de technologie de manière forte. C'est clé pour la croissance. On peut dire, discuter indéfiniment sur savoir si c'est 50, 70%, mais c'est clé. La croissance, elle se fait par la technologie. Et à un moment, cette technologie, elle est bénéfique parce qu'elle touche la consommation des gens, donc elle crée des emplois, elle crée de la richesse de manière très très forte. Malheureusement, et c'est un problème de nature plus politique, il faut prendre à bras le corps la capacité de prendre en charge cette révolution technologique. Ça n'est pas ce que nous faisons, ni en Europe, ni en France. J'ai oublié ce chiffre, mais peut-être encore mieux. Le Japon fait 2,9% de son PIB en R&D, tout compris. Hein. Les États-Unis 2,8%, et nous, en Europe, nous faisons 1,8%. Et je crois qu'en France, j'ai oublié le chiffre, mais on doit être en gros dans la moyenne. Bon, c'est un beau défi politique. Et quand je vois qu'on a parfois le sentiment que la politique est derrière nous, je trouve que ça fait partie des défis qui sont clés. Et j'espère avoir réussi, dans un temps extrêmement limité, en partant du début et en essayant d'aller jusqu'à la fin, à vous convaincre de l'importance du sujet.
Voilà, Jean-Hervé Lorenzi, merci beaucoup. Vous allez pouvoir poser des questions. Il y a deux micros dans la salle. Vous levez le doigt et voilà. Monsieur là, en rouge. Ici, s'il vous plaît.
Bonsoir. Allô ? Bonsoir. Je voudrais revenir sur votre optimisme par rapport. C'est là.
Je regarde un œil. Oui, pardon. Là.
Je voudrais revenir sur votre optimisme par rapport aux effets de la croissance. Je lisais un livre d'Albert Jacquard récemment qui disait au train où va la croissance et si le tiers-monde arrive finalement à un niveau qui est celui de l'Occident. La Terre n'aura absolument pas les ressources pour pouvoir surseoir aux besoins de consommation de tous. Quelle est votre position par rapport à ça ?
D'abord, j'allais répondre un peu par plaisanterie que c'est l'optimisme de la jeunesse qui me conduit. Non, sur le fond, vous posez un autre problème. Moi, je pense que j'ai lu ce livre et je partage tout à fait l'interrogation. Et je trouve que c'est très, très intéressant, très, très positif que nous réfléchissions. Ce que je crois simplement, c'est que, au fond, j'ai essayé d'ôter une peur. J'ai essayé, au fond, de dire, dans un premier point, qu'on soit pour ou contre la croissance, le progrès technique est cet accélérateur, premier aspect. Deuxième aspect, au fond, le grand défi que nous avons, c'est qu'il a un impact qui est vécu de manière, à juste titre, hein, au départ de manière très négative, et c'est le problème d'emploi. Et celui-là, c'est vrai que j'ai par rapport à celui-là, pour nos pays, une vision assez optimiste. Maintenant, j'ai une autre crainte que celle de Jacquard. Elle est, je n'ai pas le talent de la développer, mais je suis convaincu que d'autres devraient le faire. Je suis sûr que cette accélération du progrès technique est désastreuse pour une grande partie des pays du tiers-monde. Désastreuse. C'est-à-dire que, un peu comme elle est désastreuse pour les non-qualifiés. C'est-à-dire que ces phénomènes d'accélération, qui ont d'ailleurs tendance à nous rendre exagérément optimistes, c'est pour ça que c'est si important d'avoir des voix qui nous rappellent que tout ça n'est pas aussi simple, cette accélération du progrès technique, qui peut-être est en train de résoudre pour 80% des gens un problème, va avoir des aspects de segmentation, d'écartement de population incroyables. Je suis convaincu que vous allez avoir dans les années qui viennent une difficulté d'adaptation de sociétés qui ont déjà un retard économique important, d'adaptation à des technologies qui sont incroyablement rapides. Je crois qu'ils vont avoir une très très grande difficulté. Alors, il y a la vision qui est très optimiste, qui consiste à dire, au contraire, ça permet de faire le saut. Quand j'avais 20 ans de moins, tous les économistes de développement, enfin une partie des économistes de développement, avaient cette vision optimiste, disant, avec certains exemples en tête, disant, on peut comme ça faire le saut, on n'a pas besoin de passer par la technologie. Je crois que dans ce cas-là, c'est une intuition, hein, que ça n'est pas possible et que nous devrions réfléchir de manière extrêmement forte, je pense là il y a vraiment une matière de réflexion, à ces deux populations. La nôtre, on doit pouvoir résoudre le problème, pour peu qu'on s'y mette, c'est-à-dire ces gens du bord de la route, qui ne deviendront pas des internautes en 5 minutes, c'est une plaisanterie de le penser. Mais peut-être beaucoup plus grave, ça le premier, on peut le résoudre. Le second, c'est comment faire que à la fois, je suis un peu en amont de votre question, à la fois ils ne soient pas complètement marginalisés dans un mouvement fort, et puis j'en arrive à votre question, s'ils ne l'étaient pas, mais c'est ainsi avec un grand S, hein, s'ils ne l'étaient pas, il faudrait à ce moment-là qu'ils puissent, finalement, qu'on puisse mettre en face une offre suffisante. Mais il me semble que c'est un peu une question seconde. Voilà. Donc je ne suis pas un optimiste béat. Hein, je ne suis pas du tout un optimiste béat. Et je crois vraiment que... vous savez que les économistes ont complètement abandonné le champ du développement, peut-être parce que c'était plus à la mode. Je crois que la technologie, ça le remet au cœur du dispositif. Et vous verrez, j'espère, que dans les 4-5 ans qui viennent, des gens vont réfléchir à ce sujet-là. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Hein. Je suis conscient.
Oui, monsieur à droite.
Je voulais vous dire, votre sujet était de prendre finalement la croissance mondiale, d'une part, ou la croissance de grands ensembles, comme les États-Unis d'un côté, Europe de l'autre. Est-ce que, en prenant comme exemple, non pas cette division économique, mais la division, par exemple, par type d'entreprise, est-ce qu'on apparaîtrait certaines choses? Par exemple, à aucun moment vous n'avez parlé de surproduction. Il est probable que dans le domaine alimentaire, on arrive à une surproduction, et donc que dans ce domaine-là, on doit prendre en compte ce phénomène. Inversement, dans le domaine, par exemple, pharmaceutique, il y aura toujours des besoins de plus en plus nombreux, et d'autant plus que les gens sont déprimés, etc. Et donc le problème de surproduction ne se produira pas. Inversement, et vous avez d'ailleurs fait allusion à Clinton à ce sujet, par contre, la recherche est considérable. Elle n'est pas productive immédiatement, au point de vue richesse. Elle demande énormément de délais. Et elle demande donc d'avoir les épaules extrêmement solides. Donc la recherche est capitale dans ce domaine, la surproduction zéro, et d'autre part, la solidité des épaules maximum.
Peut-être, je vais non pas me défendre, mais juste compléter ce que vous venez de dire sur la partie surproduction. Lorsque j'ai évoqué Marx, je l'avais dans la version écrite, hein, papier d'appui, mais j'avais évidemment évoqué le problème de la surproduction qui était même avant la baisse tendancielle du taux de profit. Ce qui m'avait frappé, c'était plutôt l'idée qu'on pouvait avoir une espèce de vision de l'avenir du monde, puisque au fond, la surproduction chez Marx, c'est une vision de court terme, alors que la baisse tendancielle du taux de profit porte bien son nom, c'est du tendanciel. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Peut-être également au fond, il y a chez les économistes deux catégories. Il y a ceux qui sont plutôt très convaincus sur production, et puis il y a ceux qui sont au fond très, très, comment dire, imbibés de la loi de C, qui pensent que l'offre crée toujours la demande. Je fais partie de ces gens-là, c'est vrai, je le reconnais, je confesse que je fais partie de ces gens-là. Donc je ne crois pas fondamentalement à l'idée qu'il y ait une surproduction durable, je n'y crois pas. Mais d'ailleurs, Marx non plus, parce que ça n'est pas ça qui le... Dernier aspect, je me permets de relever peut-être une contradiction entre ce que les deux points que vous avez évoqués, mais peut-être j'ai mal compris. Vous dites d'un côté, il faut finalement faire attention à la surproduction, et je suis d'accord, hein, en tout cas les deux domaines que vous avez évoqués me paraissent clairs. Et puis d'un autre côté, vous dites, attention, la recherche prend du temps. Donc, au fond, j'ai un peu plaidé pour la recherche, donc j'ai plaidé pour quelque chose qui, comme ça prend beaucoup de temps, est plutôt pas forcément lié à de la surproduction rapide. Donc, c'est pas une pirouette, mais c'est une manière de vous renvoyer un peu au sujet lui-même. Je suis conscient de ne pas avoir répondu non plus tout à fait à votre question. D'accord, oui. Non, je suis d'accord.
Oui, monsieur à gauche, s'il vous plaît.
Oui, donc votre leçon a illustré le rapport entre l'innovation, la productivité, la croissance, l'emploi. Et puis derrière ce moteur de l'innovation, si j'ai bien suivi, j'ai identifié l'entrepreneur, les entrepreneurs, et puis la recherche et développement. Donc cette recherche et développement paraît un élément vital. Vous constatez, vous nous faites part d'un déficit en termes d'investissement donc du capital. Donc ma question, c'est quels sont les facteurs de productivité, on va dire, de cette activité de recherche et développement, et qui en sont les acteurs?
Est-ce que la question, c'est... J'ai constaté que nous n'avions pas suffisamment, que nous n'investissions pas suffisamment.
C'est ce que j'ai compris.
Oui.
D'une part, mais alors,
première réponse, le capital, ça c'est une décision de je crois, de nature politique. Les chefs de gouvernement se sont réunis sur ce sujet-là à Lisbonne il y a quelques jours, quelques semaines. À ma connaissance, mais je ne lis que ce qu'il y avait dans les journaux, ils ont beaucoup parlé. Et pris de décision. Donc, premier aspect, je crois sur la partie des pouvoirs publics. Sur la partie des entrepreneurs, pourquoi est-ce qu'ils investissent moins? C'est une question qui est difficile, à laquelle je suis absolument incapable de... Oui. Quels sont les facteurs de productivité? C'est-à-dire, au fond, par rapport à un investissement en R&D que je vais faire, qu'est-ce qui va faire que ça va se transformer en... C'est une question difficile, hein. Je n'ai pas de réponse simple. D'abord, je crois que... Sur ces thèmes-là, voilà. Beaucoup de gens, hein, beaucoup de travaux. Je vais essayer de répondre par quelque chose que je n'ai pas pu évoquer. Je vous ai une question qui est très forte, parce qu'elle est, compliquée. Au fond, la question que nous nous posons, c'est de se dire comment est-ce que marche la logique entre un investissement en R&D et puis le fait que tout ça va finalement être productif. Derrière cette question-là, c'est qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va vouloir investir en R&D parce qu'elle sait qu'elle va, pouvoir gagner du temps et des marchés. Ce n'est pas évident comme opération. Si je prends aujourd'hui la manière dont c'est étudié, notamment pour les entreprises, il y a beaucoup de travaux assez formalisé sur ce qu'est le comportement d'une entreprise et comment est-ce qu'ils réagissent. Alors, il y a une première question qui est-ce que j'ai intérêt à investir dans la R&D ou est-ce que j'ai intérêt à imiter, à un peu améliorer, parce que c'est moins risqué. Donc, au fond, dans toute cette affaire, c'est un peu la réponse à la question, il y a d'abord et avant tout un grand risque. Deuxième aspect, on constate que dans des domaines, je ne sais pas, moi, on cite toujours des chiffres sur un semi-conducteur, une nouvelle génération de semi-conducteurs, où c'est $1 milliard. Qu'est-ce qui vous dit que ça va marcher? Qu'est-ce qui vous dit que ça va se développer? Qu'est-ce qui vous dit que ça va être productif? Question forte. Donc, beaucoup d'entreprises, si elles ont décidé d'investir, elles vont plutôt avoir tendance à se rassembler et finalement à partager les coûts de développement. Alors, ça avait été c'est la grande différence entre notamment la politique européenne et la politique américaine. En Europe, par un espèce de souci un peu, de néophyte, on a dit qu'il faut qu'il y ait le marché, etc. Donc on a dit on va faire, les entreprises ont le droit de se rapprocher et travailler ensemble, coopérer, qu'en pré-compétitif, tout ce qui est vraiment très en amont. Aux États-Unis, ils ont créé sur les semi-conducteurs une société qui s'appelle Symantec, où ils sont tous rassemblés pour pouvoir partager les coûts. Qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas? Je pense qu'il n'y a pas de réponse évidente. Mais pardon d'être aussi imprécis, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse.
Voilà, on a une toute dernière question, je vous demanderai d'être très extrêmement rapide. Bref.
Parce J'espère que vous me pardonnerez si je mets un tout petit bémol à ce que vous avez dit sur les investissements en recherche différents en Europe et aux États-Unis. C'est totalement vrai que c'est différent, mais ça dépend énormément des secteurs aussi. Hein, la façon de comptabiliser, j'ai travaillé comme chercheur dans les deux côtés de l'Atlantique. La façon de comptabiliser la recherche est totalement différente. En Europe, nous n'avons pas à rougir de la recherche nucléaire, de la recherche sur les transports, de la recherche sur un certain nombre de choses qui sont différentes, mais c'est une espèce de spécialisation.
Oui, je ne suis pas très convaincu de ce que vous dites, parce que vous avez un peu donné la réponse à mon interrogation. Vous avez cité le nucléaire et les transports. Si on allait, mais si on va les programmes essentiels dans les domaines d'Internet, par exemple, le lancement de l'opération, vous n'avez rien d'équivalent en Europe. Si on prend les programmes, j'ai cité tout à l'heure les programmes en biotechnologie, les rapports, je crois que les chiffres sont de rapport de 1 à 4. Donc on est quand même dans une. Je suis pas du tout ni de tempérament ni même de philosophie propre, comment dire, poussé à dénigrer, mais les chiffres sont quand même très impressionnants. Et je crois vraiment que nous avons vécu, n'oubliez jamais ça, alors là c'est l'économiste qui reprend le dessus, nous avons quand même vécu les 10 dernières années qui n'ont rien à voir entre ce qui se passait dans la période donc 90 et 2000, entre ce qui se passait aux États-Unis et en Europe, une vision très, très, très optimiste, hein, très forte, très pleine d'investissement qui a quand même baigné l'Amérique, et puis une vision quand même très, très frileuse. Alors là-dessus, ça prendrait des heures d'en discuter, de savoir si c'était bien ou mal. Dernier aspect, mon expérience personnelle m'a amené dans les années de la loi sur la recherche, qui nous ramène donc en 82, si mes souvenirs sont exacts, à avoir participé comme modeste collaborateur aux travaux des uns et des autres sur l'organisation. Et puis il y avait cette espèce de chiffre qui était magique, on va faire 2% à l'époque, hein, je ne sais pas si vous en souvenez. Donc c'était vraiment, est-ce que c'était bien ou mal, j'en sais rien, on pourrait dire bien des choses, mais il y avait quand même l'idée qu'il y avait un chiffre. Alors, moi je n'ai pas eu toute religion des chiffres, mais un chiffre ça veut dire quand même qu'à un moment il y a des dépenses budgétaires. Honnêtement, aujourd'hui, dépenses budgétaires, il faut quand même se lever de bonne heure pour convaincre les gens qui sont les grands argentiers que ça vaut la peine. Et puis il y a cette idée fausse, très fausse, que c'est que l'Amérique, c'est les entreprises qui font le travail. Mais ne terminons pas sur un pessimisme. D'abord, j'ai l'impression que le synchrotron, ça, c'est plutôt positif. Non, j'en sais rien. Et puis, deuxième aspect, peut-être que nous avons la présidence française pendant 6 mois, et j'espère que j'ai un espèce d'espoir, là, à 8h-5, j'ai un espoir que peut-être que nous serons allants sur. Que nous, notre équipe gouvernementale sera allante sur le sujet.
Voilà. Merci beaucoup.